Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ils sont arrivés en France pour fuir la guerre, la conscription et la dictature de Poutine. Ils viennent d'Ukraine ou de Russie. Et lorsqu'ils arrivent chez nous, à la recherche d'un refuge et d'un travail, ils se tournent naturellement vers des compatriotes ou des russophones. Oksana trouve un job par le biais d'une Ukrainienne qui vient de la même région qu'elle. C'est rassurant. Bogdan se fait embaucher par un russophone dont l'origine est plus obscure. Des jobs dans le tourisme, le premier à organiser des visites guidées de la capitale en vélo et la seconde à faire le ménage dans les Airbnb à la chaîne. Franchement, pas glamour, ni très, Paris est une fête. Rapidement, ils vont déchanter et s'apercevoir qu'ils ont beau être blancs de peau avec des statuts moins précaires que d'autres exilés, leurs conditions de réfugiés les rend vulnérables, permettent à ceux qui les font travailler de les exploiter sans vergogne, de les mal payer et maltraiter. Sauf que voilà, Bogdan et Oksana vont rapidement décider de ne pas se laisser faire. Ils vont se rebiffer et même réussir à se faire entendre. On les écoute tout de suite au micro d'Émilie Chaudet.
Je m'appelle Bogdan et j'ai 23 ans. J'ai vécu toute ma vie à Moscou, j'ai grandi là-bas, donc même si je fais mon licence là-bas. Je suis parti de Moscou en août 2023. Et je suis arrivé en France pour effectuer mon master ici, de théorie politique à Sciences Po. Je crois que je ne dois pas expliquer comment ça se passe maintenant en Russie et qu'est-ce qu'il y a là-bas. Juste un exemple assez simple, assez précis, c'est que un professeur qui a écrit pour moi la lettre de recommandation pour ma admission à l'université ici à Paris. Bon, maintenant, il est condamné à 5 ans de prison parce qu'il a dit que l'explosion de la pompe de Crimée par l'armée ukrainienne est compréhensible. Vraiment, il n'a pas même dit que c'est justifiable, il a dit que c'est compréhensible. Moi, j'étais déjà 2 fois à Paris quand j'étais adolescent. Donc, bien évidemment, vivre à Paris, ce n'est pas être en touriste, quoi. C'est une expérience complètement différente. Dans toutes les dimensions. Bah, quand tu es touriste, tu fais quoi? Tu regardes le Louvre, la Tour Eiffel, Notre-Dame, etc. Mais quand tu habites ici, bon, c'est toute une autre réalité. Il faut faire énormément de démarches administratives et tu découvres Paris, Île-de-France, des quartiers populaires. Bon, j'ai vécu, après mon arrivée en France, j'ai vécu 3 mois à Villejuif. Et puis, j'ai pu trouver mon appartement à Stalingrad où j'habite maintenant. Et moi, j'aime bien préciser que c'est Stalingrad parce que c'est un peu ridicule qu'un Russe habite à Stalingrad à Paris, même qu'il n'y a pas plus de Stalingrad en Russie. Maintenant, la ville s'appelle Volgograd et pas Stalingrad parce que, bon, Staline, quoi. Nous sommes maintenant dans le local de l'entreprise Orange Fox Bikes, dans le 2e arrondissement, près de la Bourse de l'Opéra. Et c'est une entreprise touristique qui propose des tours guidés à vélo. Et j'ai pu trouver ce job à cause du réseau des immigrés, quoi. Le propriétaire de l'entreprise est ukrainien, russophone, venant de Kharkov. Et la majorité de l'administration, des gérants, quoi, sont les Russes. Et donc, je connaissais un mec qui travaille ici. Et juste un jour, je lui ai posé une question en mode, « Je cherche le travail maintenant, est-ce que tu connais quelque chose ?» Et donc, il m'a proposé ça. Guide touristique, c'était des petites excursions à vélo où je me déplace sur Paris avec les touristes et on fait quelques arrêts. Ça dure normalement 3 heures et on voit le centre-ville, les principales attractions touristiques. On fait plusieurs arrêts où je raconte les trucs sur l'histoire de Paris, l'histoire de France pour les touristes qui viennent de tous les pays. Donc c'est plutôt pour les touristes anglophones. Le premier jour dans cette entreprise, c'était le 22 septembre, je crois. Ils ne m'ont rien demandé, ni pièce d'identité, même pas mon nom de famille, juste mon prénom, numéro de téléphone. Puis ils m'ont demandé, est-ce que tu peux travailler pour le début noir pour qu'après on peut faire un contrat, etc. Est-ce que, un entretien le plus court et vite possible dans le monde. J'ai dit, je veux un contrat, mais pour le début, je peux travailler au noir, parce que, je peux attendre les contrats quelques semaines. Donc, je comprends, vous êtes en start-up, machin. Donc, on verra, mais pour le moment, on peut travailler comme ça. Et bon, honnêtement, pour moi, c'était aussi la question de juste, j'ai besoin de travail ici et là. Je suis prêt, je parle français, je parle anglais, je parle russe, j'apprends allemand. Est-ce que je peux travailler chez vous? Et le lendemain, c'était ma première excursion. C'était bon, honnêtement, c'était très bien. J'aime bien ce travail de guitaristique. J'adore raconter les histoires que moi je trouve drôles et intéressantes à Paris. Et donc c'était très bien. Il y avait, je sais pas, 15 touristes peut-être autour de ça. Ça a très bien marché. Tout le monde était très content. J'ai même reçu quelques pourboires. J'étais énormément content de ça même. Mais c'était après. Quand les problèmes ont vraiment commencé à apparaître. Il y avait que les russophones employés ici parce que le propriétaire de l'entreprise et les Ukrainiens, la majorité de l'administration, ils sont russes ou soit russophones. Et donc, bien sûr, c'est très compréhensible pourquoi ils ont employé que les russophones parce que ils sont déjà accoutumés, eux, les patrons, de le business à la post-soviétique. Ils savent très bien comment on peut exploiter les Ukrainiens et les Russes. Et de plus, tu comprends leur situation de précarité, de vulnérabilité, pour le forcer à travailler au noir, les payer au-dessous de SMIC, et tout cela, juste parce que tu sais très bien leur situation, et tu peux dire, ah oui, je te comprends, je viens de la même pays que toi, ou de la pays voisine, je parle ton langue, machin, moi je suis ici dans une situation très précaire en tant que patron. Mais ouais, tout ça peut marcher, et en plus, c'est aussi beaucoup plus facile de juste employer quelqu'un par les réseaux des immigrés, par les connaissances que par France Travail, et tout cela parce que bon, les travailleurs immigrés, ils ne savent pas normalement leurs droits. Début octobre, ils ont viré la majorité des techniciens. Il y avait 4 techniciens cet été qui réparent les vélos, qui préparent les vélos, qui font toutes les choses avec les vélos, qui les font sortir de l'entreprise avant l'excursion, qui gèrent toutes les choses comme ça. Et ça a devenu très problématique dès le début parce qu'ils ont viré 3 techniciens sur 4. Donc il ne restait qu'un technicien qui devrait travailler 7 sur 7 pour 7, 8, 9 heures par jour. Et c'était impossible de le faire comme ça. Plus il y avait plein d'autres problèmes comme, bon, parce qu'on travaillait au noir, c'était possible de nous payer au-dessous de SMIC. Et on était payé soit 20, soit 30, soit 40 euros par excursion, qui dure 3 heures. Ça dépend du nombre de touristes. Mi-octobre, ils ont diminué nos salaires, même moins que ça. Déjà avant c'était au-dessous de SMIC, et maintenant c'est devenu même moins que ça. Et ces deux trucs-là ont vraiment pratiquement convaincu tout le monde en hésiter de commencer la grève. Juste tout le monde a commencé à dire à tout le monde, bon, ça ne peut plus marcher comme ça, il faut faire la grève, il faut changer les choses, ça peut pas continuer comme ça. À l'époque, il y avait 8 salariés, mais au début de la grève, il y avait 6 grévistes. Ils ont juste déclaré que l'entreprise est en crise, il faut attendre un peu, etc. Bon, les gens qui attendaient leur contrat depuis genre avril et mai, on va attendre pour l'éternité, quoi. Et donc il y avait un peu de négociation au début de la grève, mais ils ont très rapidement fini. À l'époque, leur dernière proposition, c'était de nous proposer les CDD de 20 heures par mois, donc 5 heures par semaine. Et bon, on a bien sûr refusé ça parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Juste travailler 5 heures de manière légale et pour le reste, continuer le travail dissimulé. Parce que moi, par exemple, je travaillais 20 heures par semaine ici. Au début, on a juste arrêté de travailler et c'était déjà assez mal pour l'entreprise parce que juste le jour de début de grève, ils ont perdu 75 touristes qui valent autour de 3 000 euros pour eux. Puis on a fait un rassemblement de soutien, le piquet de grève quoi, devant l'entreprise pour mettre plus de pression. On a contacté l'inspection du travail, l'inspection du travail est venue. Elle a pu même trouver notre gérant ici dans l'entreprise et lui interroger. Il y a notre gérant, il y a notre propriétaire. Ce ne sont pas des mêmes gens parce que Cette entreprise n'est pas une entreprise française, c'est une entreprise internationale qui a sa siège sociale à Barcelone. Et même, il y a le responsable légal de cette entreprise qui n'a presque rien à faire avec cette entreprise, c'est juste un mec ukrainien de 19 ans qui est payé pour signer les documents, quoi. Et puis finalement, on a compris qu'après que l'inspection du travail est venue, on risque que l'entreprise peut être fermée chaque jour. Et donc, on a décidé l'occupation, maintenant on occupe le local. On dort là, on reste ici 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. Et maintenant, avec cette occupation, on peut finalement changer le rapport de force. Il existe maintenant, ce n'est pas que on juste parle avec le gérant, c'est que il y a un avocat qui représente nos intérêts, il y a un avocat qui représente les intérêts du patron. Il interchange entre eux, c'est déjà quelque chose. Et on se passe ce temps ici, il y a pas mal de militants qui viennent nous voir, nous soutiennent, il y a notre caisse de grève. On a quand même organisé plein d'événements ici. Il y avait une conférence d'un chercheur russe en histoire d'art. Puis on a fait une action le vendredi dernier, on a défilé sur vélo à Paris vers l'hôtel de ville et l'Assemblée nationale pour montrer qu'on existe, qu'il y a nos revendications, etc. Il y avait la soirée de soutien de grève, plein de militants qui viennent ici nous soutenir, qui nous amènent quelque chose à manger, qui ont nous amené des matelas, des duvets, tout cela, des gens qui font des dons dans notre caisse de grève. Je crois que ce week-end, il y aura aussi une soirée de poésie ici même, parce que une des grévistes est poète, donc il y aura ça aussi. Maintenant, bon, on n'a pas encore porté plainte de notre partie des grévistes contre l'entreprise, mais l'inspection du travail va sûrement le faire. Honnêtement, moi, je crois que la solution la plus envisageable, c'est que l'entreprise va se fermer. Et qu'ils vont nous payer des indemnités pour ça. Mais en réalité, moi, j'aimerais bien continuer à travailler, mais qu'est-ce qu'on va envisager, nous, les grévistes? C'est que on veut faire un coopératif pour nous-mêmes, pour avoir notre propre entreprise autogérée. On a déjà trouvé quelques autres guides russophones qui sont prêts à nous soutenir et à envisager quelque chose ensemble. Mais pour le faire, il faut quand même finir avec tout cela. Nous, on aime bien notre travail. Moi, j'aime bien être en guide, j'adore ça. Même, j'aimerais continuer à travailler dans cette entreprise si juste il y avait des conditions du travail agréables, quoi. C'est un peu fascinant de voir comment la solidarité entre les travailleurs peut marcher. Pour nous, les Russes et les Ukrainiens, c'est aussi beaucoup plus fascinant que ça parce que, bon, il y a très peu de la lutte sociale chez nous. Donc, c'est vraiment fascinant, ça. Je n'arrive pas même à trouver les mots pour exprimer. Comment bizarre et cool en même temps c'est. C'est vraiment drôle, bizarre, fascinant de vivre ici, de couper le local, de vivre cette grève.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Oksana, je viens de l'Ukraine. L'affaire dont on va parler s'est déroulé en 2019, donc à l'époque j'avais 55 ans. Je suis née dans l'Ouest, j'ai fait mes études, je travaillais en tant que prof. C'était sous-payé. On ne pouvait pas survivre avec un salaire du prof. Et quand je suis venue en 2002 en France, avec toute ma famille, je suis arrivée dans le sud. J'étais au chômage à un certain moment et j'ai aidé ma fille qui est dans le sud. Ensuite, mon autre fille s'est mariée et s'est installée ici en Île-de-France. Et elle a accouché. Comme j'étais au chômage, elle m'a dit, maman, mais si tu peux venir m'aider, je dis, mais d'accord. Je suis venue m'installer ici, en Île-de-France, en 2018. Je vivais à Saint-Michel-sur-Orge et je me suis dit, mais il faut chercher quelque chose parce que rester juste à la maison, c'est pas très confortable. Un jour, sur Facebook, je tombais sur l'annonce comme quoi une société de ménage, VIP Service Concierge, cherche femme de ménage et l'horaire est très flexible. Et surtout que cette annonce était qui est en ukrainienne. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas croisé des Ukrainiens ou quelque chose. Ça me fera du bien aussi. J'ai appelé. On m'a répondu en ukrainienne. Et il s'est avéré que la gérante de l'entreprise vient de la même région en Ukraine où je suis née. Et nous avons un petit dialecte que les autres Ukrainiens ne comprennent pas. Je me suis dit, mais ça va être trop bien. J'étais reçue déjà par la gérante. Et j'avais beaucoup de filles qui parlaient ukrainien et tout. Je me suis dit, mais c'est très bien, c'est quelque chose comme chez nous, en Ukraine. Bon, la gérante m'a dit, mais vous êtes prise, on va signer un contrat. C'était mi-août, vers la fin du mois d'août, toujours pas de contrat. Je dis, mais il faut qu'on signe quelque chose, je n'ai pas de mutuelle, je n'ai rien. Pour vous dire, j'ai signé le contrat le 31 au mois de décembre. 5 mois après mon embauche, j'ai signé mon contrat sans faire la formation des risques professionnels, sans passer par la visite médicale, sans rien. Donc, je commençais à me poser des questions. J'étais payée. C'était pas beaucoup parce que c'était forfaitaire. La journée, c'est 50 euros net. Ben, c'était toujours net parce qu'il n'y avait pas de brut. Vous travaillez une journée et c'est bon, vous avez 50 euros. Même si vous faites 3 appartements, 4 appartements, 5, 6, c'est toujours 50 euros. Et faut dire que VIP Service Concierge, c'était le sous-traitant de Austinfly, grosse société qui faisait appel à la sous-traitance d'autres petites entreprises, parce que nous n'étions pas la seule entreprise qui travaillait pour nettoyer ces appartements. Ça, c'était des appartements Airbnb. Quand il y a autant de sous-traitants, on ne trouve jamais le responsable. On avait cette application, Austinfly, et dans le dashboard, on pouvait voir le nombre d'appartements attribués. Les appartements apparaissaient dans notre application la veille. Et il fallait venir dans l'entreprise, préparer le linge pour tous les appartements. Donc moi, je pouvais me retrouver à Issy-les-Moulineaux et après se retrouver dans d'autres bout de Paris. Et chaque fois, vous avez mal fait votre travail, on a des réclamations, on avait aussi des pénalités qui étaient prélevées de notre salaire. Pour vous dire, j'avais 110 euros de pénalité parce qu'il y avait des cafards dans l'appartement. Donc, comme si je les amenais dans ma poche, je les ai sortis, allez vous promener à Paris. Là, avec le recul, c'est rigolo, mais quand ça tombe à la fin du mois, de mon salaire de 600 euros, il n'y a pas de papier toilette déposé, 5 euros de pénalité. Il y a des taches sur le linge, 20 euros de pénalité. Après, ce qu'il y avait aussi, il nous manquait des produits. On l'achetait par nos propres moyens. Et aussi, s'il n'y avait pas de livraison du linge, il fallait aller laver le linge, le sécher dans des laveries, le payer ça de notre poche, comme ça. C'était nos conditions de travail. Et s'il n'y avait pas d'aspirateur, s'il n'y avait pas de balayer espagnol ou quelque chose, il fallait à tout prix laver le sol. Donc, on cherchait quelque part le t-shirt qui traînait, on prenait pour laver le sol et à quatre pattes. J'avais minimum 4 appartements par jour à faire. Mais pendant la journée, il se pouvait que je reçois un appel en disant « Il y a un appartement qui vient de tomber, il faut le faire aussi ». Et à la fin de notre travail, il fallait retourner au bureau pour nettoyer le bureau, pour faire le ménage au bureau. On avait un planning, il n'y avait pas d'heure. Normalement, c'était de 9h30 jusqu'à 18h. Tout le monde arrivait plus tôt, parce qu'on était en manque de linge, de lit, de tout. Le premier arrivé est mieux servi. Donc, ma journée commençait à 7h30. Et c'était jusqu'à 18h30. Mais si vous avez beaucoup d'appartements qui tombent, ça pouvait être 20h. Et des heures complémentaires, supplémentaires, appelez-les comme vous voulez, n'ont jamais été payées. C'est 50 euros et c'est tout. Je commençais à dire, mais j'ai mon contrat. Si on calcule les heures, des heures sup et tout, je ne dois pas percevoir 600 euros. Mais on est convenu comme ça au moment de l'embauche, je ne change rien. Même si j'avais mon contrat, ma fiche de paie, elle était fictive. Parce que je ne percevais pas la même chose. À un moment, il n'y avait plus de fiche de paie du tout. J'ai toujours dit, mais qu'est-ce qui se passe? Durant tout ce travail, c'était difficile. Déjà, porter les charges, porter sur la longue distance, monter à l'étage. Parfois, il y avait un cinquième étage, mais sans ascenseur. Ou les malles au dos, les malles de partout. Je rentrais chez moi, il y avait des moments où c'est un peu loin d'aller du Paris vers Saint-Michel-sur-Orge. Je me pose dans le RER. Et je dois me lever un arrêt avant pour que mes muscles reprennent parce qu'ils se sont relâchés et tout, et je n'arrivais plus à me soulever. J'arrive à la maison, je n'arrive pas à me baisser, j'étais KO. Après aussi, mal au poignet, mal aux épaules parce qu'on porte sur nos épaules tout ça. Et que ça ne soit pas reconnu chaque fois, avoir ce stress, qu'est-ce qu'on va faire demain, avoir ce stress à la fin du mois, quelles pénalités qui vont tomber, ne pas savoir quand est-ce qu'on sera payé. Il y avait des situations où je n'avais même pas 2 euros pour recharger le pass Navigo. En 2020, quand il y avait la grève, le métro était fermé, métro 10 complètement fermé. Le mois de décembre, il pleut, il fait froid, tout c'est à pied. Tout. Il y avait des journées où je faisais 15 km à pied. Ça a été déjà, j'étais malade, je toussais à l'époque. Et je dis à la gérante, donnez-moi les coordonnées du médecin de travail. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas vu le médecin du travail. Après, je lui ai dit, maintenant, la loi le dit, pas plus de 6 heures sans une pause. Au bout de 6 heures, je rentre au bureau, je mange, et après, si j'arrive à terminer mon travail, je le termine. Si je n'arrive pas, je ne le continue pas. Et le 9 décembre, il me semble, j'étais au bureau, je suis retournée pour manger. Elle arrive. Oksana, c'est pour vous. Elle me jette comme ça. J'ouvre un courrier de mise à pied. Dans ce courrier, il est indiqué que je me suis permise de changer le planning du personnel. Donc, je suis coupable de mal fonctionnement de l'entreprise. Et je reçois le courrier 15 jours plus tard, recommandé, qui me convoque à l'entretien préalable au licenciement. Je ne suis pas allée parce que je savais bien que ça ne sert à rien. J'ai été licenciée et juste au même moment, Tatiana, ma collègue, elle voulait déposer la demande de régularisation Elle avait beaucoup de fiches de paix. Ça a été rejeté par la préfecture au même moment. Et je lui ai dit, mais Tatiana, j'ai pris rendez-vous chez les avocats. Est-ce que tu veux m'accompagner? Et notre avocat nous a écoutés pendant presque 2 heures. À la fin, elle nous a dit que si vous voulez, je vous mets en relation avec la CGT parce que pour moi, ça relève de traite d'êtres humains. Et très vite, nous avons été contactés par la CGT. Elle nous a très bien écoutés. Et en parlant de ça, comme moi, je n'avais plus accès, je ne pouvais plus venir au bureau, c'est Tatiana, ma collègue, qui a commencé à parler un peu aux filles par rapport à ce qui se passe et tout, pour dire, mais il faut se battre. Et on était convoqués après, auditionnés par l'inspection du travail, par les gendarmes, tout ça. Après, l'enquête a duré presque une année. Mais peu à peu, quand les filles ont entendu parler de cette affaire-là, il y avait d'autres qui se sont rejointes à nous. Au final, il y avait 28 personnes qui ont porté plainte contre la patronne. Et en 2021, il y a eu déjà le premier jugement de cour correctionnelle, où ça a été reconnu comme traite d'êtres humains aggravée. Il y a le procès en appel qui va se tenir au mois de janvier. Les avocats attendent le jugement de ce que va dire l'appel pour ensuite continuer au prud'homme. Mais aujourd'hui, je travaille. Je travaille dans une entreprise. Je suis interprète russe, ukrainien, français. Je suis épanouie dans mon travail, mais pour vous dire, aujourd'hui, je suis élue membre CSE dans l'entreprise. Tout se passe très bien. Et actuellement, nous sommes 25 qui continuent leur combat face à cette patronne qui sont impatientes d'enfin se dire... Oui, nous avons gagné. Oui, nous pouvons gagner.
C'était Oksana et Bogdan, ce rebif, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Perré Legras. Merci à Bogdan, bien sûr à Oksana, à Ladislav, à Rémi Frey, à Benoît Martin et à Lou. Merci Eka, à lire dans Mediapart l'article de Nejma Brahim consacré aux exilés russes et ukrainiens qui sont exploités par cette entreprise de vélo. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue. Sébastien.